Bonjour. Alors, aujourd'hui, on plonge dans les archives. Celle d'une maison de cognac, prestigieuse, Terrasson de Montlot.
Oui, bonjour. On a là des documents qui nous parlent d'une histoire familiale, qui remonte loin, hein, au XVIIe siècle, avec tout un héritage noble derrière.
C'est ça. Bon, décortiquons un peu tout ça.
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on est vraiment à cette période charnière, vous voyez, où les eaux de vie deviennent le cognac qu'on connaît. Et ces archives montrent une implantation déjà solide, dès le XVIIIe siècle, et une vision étonnamment moderne pour l'époque, en fait.
Tout à fait. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre un peu comment cette maison a bâti sa réputation, une réputation légendaire.
Oui, à travers les innovations, les défis aussi, logistique notamment.
Et bien sûr, sa clientèle très très sélecte. On va regarder tout ça grâce aux extraits qu'on a.
Alors, les débuts, déjà.
Oui, les débuts sont assez marquants. L'acquisition de la terre des Andraux, c'est 1695. Et puis, une première distillerie en 1743. Et on voit que dès le XVIIIe siècle, le domaine est déjà conséquent, quoi. 60 hectares, 3 distilleries.
Ah oui, c'était une structure importante pour l'époque, effectivement.
Carrément.
Et on voit aussi l'influence de certaines personnalités. Il y a Alexandre de Terrasson de Montlot, député, maire. Il a marqué son temps.
Oui.
Mais les archives, elles mettent aussi en lumière le rôle d'une femme, Valentine, née en 1870. Elle était active à la fois dans la gestion des vignes et dans le négoce.
Ah, intéressant ça. Une implication féminine notable dans ce milieu à cette période.
Oui, c'est à souligner.
Cette vision d'avenir, on la retrouve aussi dans la technique, la modernisation du domaine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'innovation, hein. Les sources parlent de vestiges d'un petit train. Un petit train qui parcourait les vignes au 19e siècle. Vous imaginez?
Ah oui, ça c'est assez incroyable pour l'époque.
Et cette modernité, elle s'étendure aussi à la logistique. C'était crucial évidemment pour un produit qu'on exportait.
Bien sûr.
Les expéditions par rail au 19e siècle, ça allait loin. Notamment vers la Russie, et face aux dangers, parce qu'il y avait des dangers.
Ah bon?
Oui, les documents mentionnent explicitement des attaques de Cosaques sur les convois russes. Des Cosaques! C'est incroyable, cette mention. Comment ils faisaient pour protéger leur chargement, alors? Ça veut dire que ces expéditions vers la Russie étaient particulièrement risquées, ou stratégiques peut-être?
Exactement, le risque était bien réel, et le produit avait une grande valeur. Alors, leur solution, c'était des tonneaux à double fond, pour déjouer les voleurs, tout simplement.
Ingénieux.
Voilà. Et ce n'est pas juste une anecdote technique, ça montre bien à quel point ce cognac était déjà convoité, précieux. Il fallait des mesures de protection assez sophistiquées, surtout sur ces routes d'exportation clés comme la Russie.
Et la qualité, elle était reconnue. Au plus haut niveau, même. On a cette citation qui date de 1883.
Ah oui, c'était la récompense suprême.
La classe.
D'ailleurs, la maison se présentait fièrement comme fournisseur à Paris de l'hôtel continental du Grand Hôtel. Excusez du peu.
Donc une clientèle parisienne de premier plan, c'est clair. Mais les documents révèlent des connexions encore plus prestigieuses, si c'est possible.
Oui, alors là, on touche au sommet. Les lettres du comte de Benkendorf, maréchal de la cour impériale russe. En 1894-1899. Elles sont très parlantes. Il écrit directement au comte de Montlion.
Ah oui, pourquoi?
Pour obtenir ce cognac pour la cour du tsar. Il avait découvert où? Au très sélect cercle de l'Union à Paris. Le bouche à oreille au sommet, je vous disais.
C'est fou. C'est vrai que la qualité, c'est la base. Mais avoir la cour impériale comme client, c'était pas aussi une stratégie de marque incroyable avant l'heure? Un outil marketing puissant en soi?
Ah mais complètement. Et les archives montrent que derrière, il y avait de vraies tractations commerciales très sérieuses.
C'est-à-dire?
Des échanges avec des acheteurs londoniens, comme Hermans ou le prince Roussov. On parle de millésimes précis. 1820, 1848, 1875.
D'accord.
On discute d'exclusivité, des stocks restants. Il y a une transaction en 1920, tenez-vous bien. 1000 bouteilles de 1875 pour 50 000 francs. C'était une somme considérable à l'époque.
Ah oui, quand même.
Ça montre bien la demande et le positionnement très très haut de gamme.
D'ailleurs, il y a un fascicule de 1883 qui expose assez clairement leur philosophie. Maintenir un prix élevé, oui, mais justifié par une qualité irréprochable. Tout en répondant aux demandes des clients dans de justes limites. C'est une stratégie de luxe assumée, et très tôt finalement.
C'est ça, un positionnement clair.
Et validé par les connaisseurs et les clients les plus exigeants de l'époque. L'héritage noble, l'innovation, la qualité, tout ça formait un cercle vertueux de prestige.
Alors, si on résume un peu, qu'est-ce que tout cela signifie? On a le portrait d'une maison, séculaire issue de la noblesse, qui a su innover très tôt, techniquement, commercialement, pour créer et protéger un produit d'exception.
Voilà. Et sa réputation s'est construite sur cette qualité, reconnue par les récompenses, mais aussi, et peut-être surtout, par une clientèle des palaces parisiens jusqu'à la cour impériale de Russie. Impressionnant parcours.
Et cela soulève une question importante, je trouve. Comment une maison avec un tel héritage, avec ses liens historiques si forts, avec l'aristocratie, le luxe européen, notamment russe, comment est-ce qu'elle navigue aujourd'hui en ces quais ?
Oui, bonne question.
Comment cet ADN historique, ce prestige bâti sur des siècles, dialogue avec les réalités, les codes du marché actuel du cognac ? Bon, ça va au-delà de nos sources directes, mais c'est une réflexion que cette plongée dans les archives rend particulièrement intéressante à envisager. Vous ne trouvez pas ?
Tout à fait. Une belle matière à réflexion pour conclure.